deux orphelines, troisième partie, chapitre 7. Il avait neigé toute la nuit. La place Saint-Sulpice présentait l'aspect d'une plaine blanche dont l'éclat donnait, par opposition, des tons bruns aux maisons qui l'encadraient. Les deux tours de l'église s'élevaient noires avec leurs chapiteaux de neige. Il faisait un froid intense, et les passants, enveloppés dans leurs manteaux, quelques-uns même très engoncés dans leurs fourrures, marchaient vite, traversant en courant la place pour aller d'une rue à l'autre. On célébrait sans doute quelque important office religieux dans l'église, car de nombreuses chaises à porteurs stationnaient à la porte. Ce qui prouvait surtout que les fidèles devaient être nombreux, c'est qu'un certain nombre de mendiants, enfants et vieillards pour la plupart, attendaient grelottant sur les marches. Au moment où l'horloge de l'église sonnait les derniers coups de midi, un individu s'arrêta devant le portique et jeta un coup d'œil sur tous les mendiants qui se trouvaient là. Puis, n'ayant pas rencontré ceux qu'il cherchait, il s'éloigna de quelques pas, en boitant, pour aller reprendre la boutique de Rémouleur qu'il avait déposée au pied de la grille latérale de l'église. « Midi, » fit-il en se parlant à lui-même. « Elles ne tarderont pas à venir. » Puis, celui que l'on a déjà reconnu pour être l'un des fils de l'Afrochard, Pierre, s'appuya contre la grille en se disant « Attendons. » Mais au même instant, voyant déboucher du coin de la rue un homme qui s'avançait vers lui. « Ah, voilà Jacques !» fit-il d'un ton de mauvaise humeur, et avec un soupir. Il ne pouvait pas manquer d'arriver, lui. C'était effectivement le préféré de l'Afrochard, qui, comme d'habitude, se trouvait au rendez-vous convenu chaque matin avec sa mère. Celle-ci n'indiquait presque jamais deux fois de suite le même endroit. Elle savait se tenir au courant des services religieux importants qui devait être célébré dans les églises. C'était, on se le rappelle, le meilleur champ de récolte de cette créature qui poursuivait et obsédait sans vergogne les passants, s'inquiétant peu des rebuffades dont elle était l'objet. Ce jour-là, elle devait attendre la sortie de la grand-messe à Saint-Sulpice, car en abordant son frère, Jacques demanda à celui-ci. « Elles ne sont pas encore arrivées, les femmes ?» Ces mots, les femmes, résonnèrent mal aux oreilles de Rémouleur. Appliquer cette expression grossière « les femmes » à l'infortuné à qui l'on avait dû faire violence pour l'entraîner à mendier, Pierre ne pouvait admettre cela sans protestation. Il répondit sèchement. « Non, pas encore. » Puis, pour faire opposition aux sans-gêne de son frère, il ajouta avec une sorte de respect. « Notre mère et Mlle Louise sont sans doute occupées ailleurs. » Mais Jacques répliqua d'un air contrarié et avec un geste de colère à peine dissimulé. « C'est ici qu'elle devrait être. À l'heure de la grand-messe. L'heure des affaires et de la récolte. » Il avait parcouru du regard les deux extrémités de la place afin de voir si la mendiante n'allait pas déboucher de l'une des rues adjacentes, traînant à son bras l'aveugle qui, maintenant, sortait chaque jour avec la mégère et s'était résigné à lui obéir en toutes choses. Pierre le suivait du regard. Le Rémouleur attendait lui aussi avec impatience, et c'est avec empressement qu'il répondit. « Oh, sois tranquille, au premier coup de cloche, elles seront là, toutes les deux. » Toutes les deux. Ces mots avaient été prononcés d'un ton dont la nuance échappa à Jacques, car elle se contenta de grommeler. « Ça ne sera pas trop tôt, l'avorton. » Pierre n'avait pu contenir un mouvement de mauvaise humeur. Mais le réprimant tout aussitôt, il s'approcha timidement de son frère, et d'une voix suppliante. « Jacques, » fit-il. « Et puis, » riposta le fils aîné de l'Afrochard. Le Rémouleur, n'osant lever les yeux, se fit doux et humble pour murmurer. « Jacques, j'ai quelque chose à te demander. »«
Si c'est de l'argent, » ricana le gardement, « je n'en tiens pas. »«
Non, » dit Pierre vivement, « ce n'est pas de ça qu'il s'agit. »
D'habitude, Jacques n'était pas patient. Lorsqu'il lui arrivait de causer avec le Rémouleur, c'est qu'il ne pouvait pas faire différemment. Dans la circonstance présente, le retard que mettaient les femmes, comme il disait, à se trouver au rendez-vous, l'irritait visiblement. Aussi, laissa-t-il vite de côté le ton goguenard pour dire avec colère à Pierre. « Eh ben voyons, finissons-en !» Force fut à Pierre de s'armer d'énergie, ce qui ne lui était pas habituel, de façon à pouvoir dire ce qu'il avait sur le cœur. Il se détourna donc légèrement pour continuer. « Quand Louise est là et que tu te mets en colère, brutalise-moi. Bats-moi si tu le veux. Mais ne m'appelle pas l'avorton. » Jacques, en toute autre disposition d'esprit, fut parti d'un vigoureux éclat de rire. Mais il n'était pas dans ses bons jours, le chérubin. Aussi, fut-ce en fronçant le sourcil qu'il répliqua. « De quoi ? De quoi ? Faut parler à monsieur avec respect ? À cette heure ?» Et ne résistant pas au besoin de persifler le malheureux, qui ne savait plus où se fourrer. « Comment donc ? On mettra des manchettes de dentelle, avec des gants en peau de lapin. » Pierre devenant de plus en plus suppliant. « Jacques !» Cette fois, le bellâtre laissa déborder sa verve de faubourien. « Ça te blesse ? » fit-il en toisant le rémouleur. « Qu'on t'appelle l'avorton ?» Et avec un mauvais sourire. « Mais jette donc l'œil sur ton architecture !» C'était là une cruauté inutile. Il savait bien que le pauvre Claudican n'avait jamais eu la moindre prétention. Seulement, on le sait, le brutal personnage ne laissait jamais échapper une occasion d'épandre sa bile sur le malheureux qui servait de souffre-douleur à cette famille de misérables. Pierre, néanmoins, voulut essayer de l'apitoyer une fois par hasard. Il prit donc son air le plus soumis, sa voix la plus émue, pour dire tout bas à Jacques. « Tu sais bien que si je suis estropié, c'est que... »«
Que quoi ?»
interrompit le drôle en se campant sur la hanche.
« C'est qu'étant tout petit, reprit le rémouleur, j'ai eu cette jambe-là cassée. »
« Cassé par toi, Jacques ?» À ce souvenir évoqué au moment où il s'y attendait le moins, l'aîné des Frochards, eut-il honte de lui-même ? Toujours est-il qu'il s'écria vivement.
« C'est pas vrai, tu mens !»
Pierre voulut profiter de cette nuance de faiblesse chez son interlocuteur. Il ne s'était assurément pas attendu à ce que le coupable voulût se défendre d'avoir commis la mauvaise action qu'il lui reprochait. Il s'enhardit donc jusqu'à répéter son accusation. « Oui !» reprit-il avec une sorte de véhémence dont il dut être bien étonné lui-même. « Oui, cassé par toi, pour qui je ne voulais pas voler un habit. » À la porte d'un fripier. L'œil du pauvre boiteux lança un éclair. Pierre se rappelait avec fierté que tout petit et faible qu'il était, il avait préféré se laisser rouer de coups au point d'avoir la jambe brisée plutôt que de commettre une action coupable. Il osait presque soutenir maintenant le regard de Jacques. Mais celui-ci le toisa avec une colère croissante, et lui mettant le poing sous le nez, il prononça d'une voix grinçante. « Tu mens que je te dis, c'était pas un habit !» Puis d'un ton goguenard, « C'était un manteau !»
Le rémouleur était décidément bien monté. Il ne se souciait pas, paraît-il, de laisser ce jour-là, comme d'habitude, tomber la conversation. Il ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps de se risquer à tenir tête au brutal qui ne lui ménageait ni les injures ni les coups. Aussi ne fût-ce pas sans stupéfaction que Jacques s'entendit dire à brûle-pourpoint.
« Enfin, t'as toujours eu l'idée de faire voler par les autres !»
Et s'animant, le boiteux poursuivit. « Après moi, ça a été le tour de cette pauvre Marianne !» Jacques avait bondi sur son frère, la main levée comme pour pulvériser le chétif qui osait ainsi s'attaquer à lui. Et ne se contenant plus de colère, il s'écria.
« Marianne, je te défends de me parler de celle-là !»
Le triste sire passa alors rapidement la main sur son front, comme s'il eût voulu chasser une pensée obsédante. Pierre avait fait vibrer une corde qui était encore sensible dans cette âme abjecte. En lui parlant de la malheureuse, qui, aveuglée par un inconcevable amour, s'était laissée entraîner dans le vice et l'infamie, Pierre avait remué chez son frère un souvenir encore trop vivace. « Ne me parle jamais de celle-là, reprit Jacques. C'est une ingrate qui a mieux aimé se faire mettre en cage que de vivre avec moi. » Le rémouleur ne put retenir cette exclamation. Elle voulait redevenir honnête. Mais déjà les regrets de Jacques s'étaient évanouis. Et c'est d'un ton narquois qu'il répliqua.
« C'est pour redevenir honnête qu'elle va faire son éducation avec les vertus de la salpêtrière ? Dans le pensionnat du lieutenant de police ?»
Puis avec force.
« C'est une sans cœur !»
Pierre commençait à regretter presque d'avoir détourné la conversation en parlant incidemment de Marianne. Il n'était en effet plus question de ce qu'il avait demandé en grâce à son frère. Néanmoins, il voulut essayer d'obtenir qu'il lui épargnât, une fois pour toutes, à l'avenir, le surnom d'avorton. Pour revenir sur ce sujet, il essaya d'un détour. S'apitoyant sur le sort de Marianne, que Jacques venait de qualifier de sans cœur, il hasarda. « Tu lui en veux à Marianne, mais il faut être juste. Elle ne t'a pas chargé. » Jacques coupa court la phrase commencée. « En v'lassez, » interrompit-il. « Je ne veux plus y penser. » Il haussa les épaules d'un air fanfaron en ajoutant « J'en trouverai une autre, une plus belle, et qui sera plus adroite et plus productive. » Puis revenant de lui-même au sujet que Pierre avait primitivement attaqué, « Quant à toi, » fit-il, « puisque l'avorton ne te va plus, je vais chercher autre chose. » Et faisant pirouetter le pauvre boiteux, « Je t'appellerai Cupidon. Cela te va-t-il, ça, Cupidon ? À moins que tu ne préfères que je te redonne ton nom d'autrefois, tu sais, le petit Vénus. » L'infortuné Pierre avait vainement essayé de faire jaillir une lueur de compassion dans le cœur de son frère. Il vit bien qu'auprès d'une nature aussi perverse, il n'y avait pas à insister. Et c'est d'un ton de profond découragement qu'il dit « Fais ce que tu voudras. » Le malheureux, trompé dans son espérance, avait tourné le dos à Jacques. Il ne vit pas le sourire qui rida les lèvres de son frère, ce sourire qui était presque toujours une menace chez l'aîné des Frochards. Sans cela, il eût bien regretté de s'être laissé aller à ce mouvement de révolte. Mais Jacques devait le reprendre maintenant pour lui faire payer son audacieuse intervention dans ses affaires avec Marianne. Il saisit le rémouleur par le bras et lui faisant faire demi-tour, il le tint en face de lui. Puis avec une intention méchante. « Mais, j'y pense, » dit-il. C'est devant la petite Louise que t'aimes pas qu'on t'appelle l'avorton. Oui, oui, c'est devant elle que tu crains tant que je te donne ce nom-là. Puis comme s'il fût tombé de son haut. Est-ce que par hasard... Pierre n'avait pas bronché. Les yeux fixés sur le sol, il avait peur de ce qu'allait dire son frère. Mais tout à coup, son sang se figea dans ses veines. Jacques éclatait de rire en s'écriant. Ah, mais ça serait trop drôle! Continuer à garder le silence, c'était de la part de Pierre donner gain de cause à son frère. C'était lui dévoiler le secret de ses mélancolies, de ses longues contemplations de la pauvre aveugle, le secret de son cœur, qu'il avait gardé depuis le jour où il s'était senti une sympathie si vive pour cette jeune fille, qui l'aidait à supporter les injures et les traitements odieux. Le secret qui emplissait sa vie, au point de lui faire oublier qu'il n'était qu'une misérable créature. Souffre-douleur lui-même, témoin des souffrances qu'on faisait subir à une autre. Pierre dut renfoncer dans son cœur la vérité que trahissait déjà son visage troublé. Il affecta de bien prendre la plaisanterie. Et s'efforçant de rire, à tout prix il lui fallait donner le change au chérubin qui, une fois sur la piste de ce secret, ne se lasserait plus de torturer son frère. Sans compter que la chère créature serait, elle aussi, le point de mire des sarcasmes de l'impitoyable fils de la mendiante. Du reste, Pierre n'avait plus de temps à perdre s'il ne voulait pas laisser s'incruster cette idée dans l'esprit de Jacques. En effet, celui-ci avait ajouté en manière de raillerie. « Et ce n'est pas trop bête de ta part, mon gaillard. Une aveugle, il n'y a pour elle ni beau ni vilain homme. » Puis, comme si la lumière s'était faite, pour lui tout à coup éclatante. « Ah ! T'es amoureux de notre aveugle ! » s'écria-t-il. Pierre eut un mouvement de vertige. Il se sentit perdre contenance sous le regard moqueur du chérubin. Mais jouant, malgré la souffrance qui le poignait au cœur, la comédie de la surprise. « Moi ? » dit-il en cachant son trouble autant que possible. « Moi ? En v'là une idée ! » Il faisait mal à voir ce pauvre déshérité qui se sentait deviné. Et tout autre que ce frère dénaturé, qui le tenait dans ses griffes, eut eu pitié de lui. Malgré le froid vif qui le pénétrait jusqu'aux os, sous le léger vêtement de laine qu'il portait sur sa chemise, la sueur perlait à son front. Ses regards se faisaient de plus en plus vagues, car il comprenait combien l'imprudence commise pouvait lui coûter cher dans l'avenir. Il entendait déjà le terrible Jacques raconter cyniquement la chose à sa mère, sans s'inquiéter de la présence de la pauvre aveugle. Il entendait le ricanement strident comme des cris d'orfraie que la révélation du chérubin arracherait à l'implacable mégère, enchantée de se mettre de moitié dans l'odieuse plaisanterie qui atteindrait Louise bien plus encore que lui-même. Et surmontant l'effroi qu'il ressentait, il essaya de répondre. Mais Jacques ne lui laissa pas le temps de renouveler sa protestation contre le soupçon dont il était l'objet. Il se croisa les bras comme un homme sûr de soi et lentement, les yeux sur les yeux du rémouleur, troublé. « Alors, dit-il, pourquoi que tu me demandes de te débaptiser? Si tu n'as pas d'intention amoureuse, qu'est-ce que ça pourrait te faire que je continue à t'appeler comme toujours l'avorton ?» Et haussant les épaules, « Tu dois y être habitué, depuis le temps que ça dure. » Le rémouleur ne pouvait rien contre cette logique dont Jacques tirait si méchamment profit afin de jouir de son désarroi. Il eut en vain essayé de faire changer d'idée à cet obstiné qui, du moment qu'il en trouvait l'occasion, ne manquait jamais de tourmenter le souffre-douleur. Cette fois d'ailleurs, le besoin de torturer son frère était doublé d'une fantaisie qui lui trottait déjà par la tête depuis quelques jours. Aussi tenait-il le malheureux estropié sous son regard, comme la proie qui ne pouvait échapper à ses sarcasmes haineux. Quant au rémouleur, il perdait contenance devant le garnement dont il avait une frayeur atroce. Toutefois, il ne put contenir le sentiment qui bouillonnait en lui. Les mots lui échappaient des lèvres. Et c'est d'un ton où la timidité cédait une fois par hasard le pas à l'espérance, cet infortuné, pour qui la vie n'avait jamais eu une heure de joie, se prit à laisser parler son cœur. « Oui, dit-il, ça me ferait plaisir de penser qu'il y aurait au moins sur terre une personne pour qui je ne serais pas un objet de répulsion. » Il osa lever les yeux sur les formes athlétiques de Jacques et reportant ensuite ses regards sur sa chétive personne. « Peut-être, soupira-t-il, que me croyant fait comme tout le monde, elle aura un peu d'amitié pour moi, et avec un geste de dénégation et s'exaltant. « Mais amoureux, amoureux d'elle, qui est si jolie, si charmante, si adorablement belle, qu'on la prendrait pour un ange ?» Jacques avait eu un soubresaut. Le ton presque éloquent dont Pierre avait prononcé cette phrase le surprenait. Ce qu'il avait dit en plaisantant lui apparaissait maintenant comme une vérité bien réelle. Pierre était amoureux. Cet avorton, ce boiteux, ce misérable qui se traînait du matin au soir dans les rues de Paris, pour gagner les quelques sous dont profitait Jacques, ce déshérité qui ne voulait pas qu'on se moquât de lui en présence d'une jeune fille qui ne pouvait juger de ses difformités physiques, ce fils de supplicié était amoureux. Il avait laissé pénétrer dans son cœur une pensée d'amour pour une créature qui partageait sa misère et subissait avec lui les plus mauvais traitements. C'était déjà pour ces deux êtres comme une communauté d'affection puisant sa source dans une communauté de souffrance. Et ce misérable Jacques, dont le cœur n'avait jamais été accessible à aucun sentiment de tendresse, avait deviné la pensée secrète du rémouleur. Il avait, malgré les dénégations du pauvre diable, lu la vérité dans ses yeux qu'il tenait baissés, dans son attitude embarrassée, dans ce trouble qui se manifestait sur son visage. Après avoir enveloppé le boiteux d'un regard narquois, il dit lentement, sans perdre de vue son interlocuteur mal à l'aise. Il se prit à répéter ses paroles. « Si jolie, si charmante, si adorablement belle » dit-il. « Où diable que t'as découvert tout ça à toi ?» Pierre ne trouvait rien à répondre, tandis que Jacques continuait. « C'est vrai que jusqu'ici, je ne l'ai pas beaucoup regardé. Je ne sais qu'une chose, c'est que ces deux quinquets sont éteints, ce qui fait que les passants en ont pitié. Elle lui donne pas mal d'argent. » Cette façon d'apprécier les charmes de la pauvre enfant fut une souffrance nouvelle pour le malheureux Pierre. « Oui, elle est aveugle, s'écria-t-il, mais elle a une voix qui vous va à l'âme. Une figure si douce, si résignée, et des yeux si grands et si beaux qu'on dirait qu'ils vous regardent, si bien que par instant, ça me fait peur, et je me mets à trembler à la pensée qu'elle me voit. » Jacques éclata de rire. Et s'adressant à Pierre, « Eh ben, qu'est-ce que ça te fait si tu n'es pas amoureux ?» Pour le coup, le rémouleur perdit tout à fait contenance, et il balbutia. « Amoureux, encore ? Un misérable comme moi ? Allons donc, faudrait que je sois fou !»« Alors c'est convenu, » ricana le chérubin. « Je ne veux pas te perdre dans l'estime de ton aveugle. »
Pierre s'était approché avec anxiété.
« Voilà ce que je décide. Je ne t'appellerai plus l'avorton. »
Le boiteux exhala un soupir de soulagement. Mais un mot de Jacques figea le remerciement prêt à sortir de ses lèvres. L'incroyable gredin ajoutait d'un ton ironique.
« C'est dit. À l'avenir, tu te nommeras le petit Vénus. »
« Mais non, je ne veux pas, je ne veux pas !» s'écriait Pierre avec force. Il avait même osé faire un pas en avant, comme pour manifester un mouvement d'énergie. Mais Jacques le toisa avec dédain. Et le saisissant rudement par le bras, il le fit pirouetter violemment. Et sans rire cette fois.
« Assez de volonté comme ça, dis donc. Tu veux ce qui me plaît, ou garde les taloches. »
Puis, comme pour faire évanouir le doute dans l'esprit de Pierre, sur ses intentions de réaliser sa menace, il leva les deux poings sur la tête de l'avorton. Le rémouleur courba les chines, comme toujours, lorsque la frochard ou son chérubin le menaçait. Et tristement, sans oser regarder son implacable bourreau, il dit « Tu es l'aîné, Jacques. Tu es grand et fort, ce qui fait que je suis contraint de me courber devant toi. Mais, ajouta-t-il avec un indéfinissable sentiment de résignation, quand je vois l'usage que tu fais de ton courage et de ta force, je crois que j'aime encore mieux ma misérable faiblesse. » Comme toujours aussi, lorsqu'il n'avait rien à répondre et qu'il dédaignait d'en venir au coup, le bel âtre se contenta de hausser les épaules. Au surplus, en ce moment, l'attention des deux frères était sollicitée par la présence de l'affrochard et de l'aveugle à l'entrée de la place. Et Jacques s'écria.
« Ah, les voilà toutes deux !»
Pierre n'avait pas bougé de place, tandis que son frère allait, en se dandinant, les mains dans les poches, au-devant des deux femmes. Certes, il n'eût pas été facile à Henriette de reconnaître sa chère aveugle dans le piteux état où les 3 mois d'hospitalité de l'affrochard avaient mis la pauvre enfant. Le visage de la malheureuse était maintenant pâle et amaigri. Sous son costume, fait de sordides haillons, sa démarche était devenue chancelante, incertaine. Et malgré la répugnance que lui inspirait la mégère, elle était bien obligée, sa faiblesse augmentant chaque jour, de s'appuyer sur le bras qui lui servait de soutien. En la voyant paraître sur la place, les laquais et quelques autres gens qui attendaient la sortie de la messe vinrent faire le cercle autour d'elle. Ce que voyant, la frochard lui pinça le bras en lui disant tout bas.
« Allez-y de votre romance, il y a du public pour vous entendre. »
Louise avait alors commencé, d'une voix brisée par la douleur et toute pleine de larmes. « Ô ma tendre Musette, console ma douleur, parle-moi de Lisette, ce nom fait mon bonheur. » Tous ces indifférents qui s'étaient approchés prenaient la malheureuse en pitié. Quelques-uns faisaient déjà mine de fouiller dans leurs poches pour y chercher quelques deniers. La frochard ne les perdait pas de vue, pas plus que ne le faisait Jacques lui-même. Le chérubin, certain désormais d'une bonne récolte, daigna regarder attentivement la chanteuse.
« C'est vrai qu'elle est jolie !» se dit-il.
Après la conversation qu'il avait eue avec Pierre, le bandit se délectait à la vue de celle qui avait si profondément touché le cœur du rémouleur. Il regardait Louise pendant que celle-ci mouillait de larmes chaque note de sa chanson. Et transporté, il se murmurait à lui-même.
« C'est vrai aussi qu'elle a une voix qui vous remue l'âme. »
La frochard, très occupée de sa recette, s'était approchée de l'aveugle pour lui glisser à la dérobée ses mots.
« Allons, le second couplet, et de la voix !»
Lorsqu'on se rappelle l'énergique résistance que cette malheureuse avait opposée à son bourreau, le jour où il s'était agi pour elle de mendier, on peut se faire une idée des tortures sans nom qu'elle avait dû subir pour en arriver à ce degré d'obéissance passive. C'est qu'en effet, depuis 3 mois, la pauvre créature avait passé chaque jour par une nouvelle épreuve, au bout de laquelle il y avait, hélas, une désillusion de plus. Pendant 3 mois, la frochard avait traîné l'aveugle dans tous les quartiers de Paris, la forçant à chanter plus haut lorsqu'on se trouvait dans les rues populeuses et à recommencer sans relâche. Elle entretenait l'espérance dans le cœur de Louise en lui disant que d'un moment à l'autre, le hasard pouvait la mettre en présence d'Henriette. Et Louise chantait, retenant ses sanglots. Et dans l'intervalle de chaque couplet,
Au moment où l'affrochard s'y attendait le moins, l'aveugle s'écriait. « Henriette, c'est moi, moi ta sœur, m'entends-tu ? Henriette, m'entends-tu ? »
Souvent, les passants étonnés s'étaient arrêtés, attirés par cette voix déchirante. Mais aussitôt, l'affrochard faisait signe que la pauvre créature n'avait plus sa raison. Et les bonnes gens, attristés, déposaient leur aumône dans la main tremblante de la désespérée et s'en allaient en faisant un geste de pitié. Quelquefois aussi, au premier mot, la mégère arrêtait la fin de la phrase sur les lèvres de l'aveugle. Elle avait pour cela un moyen infaillible qui ne manquait jamais d'arracher un cri de douleur à Louise. La misérable pinçait jusqu'au sang le bras de sa victime et lui tordait les chairs en marmottant.
« S'agit de chanter à cette heure. Allons, vite !» et des tremblés dans la voix, pour donner du ton à la romance.
Et lorsque l'on avait fréquenté, pendant plusieurs jours, le même quartier, la mendiante se choisissait d'autres champs pour sa récolte. Elle agissait avec d'autant plus de prudence que Jacques l'avait mise au courant de ce qui se disait dans les cabarets, où il se rencontrait quelquefois avec des agents de police lancés sur certaines pistes. Or, ces employés du lieutenant de police causaient assez haut entre eux, après quelques pots de poirée ou quelques flacons d'Anjou vidés à la santé du roi, pour que Jacques eût compris que M. de Lignières les mettait sur les dents à force de leur faire rechercher des individus, malfaiteurs de profession ou autres, qui commettaient des raptes, demeuraient presque toujours inconnus. Le chérubin, qui ne tenait nullement à perdre l'excellent gagne-pain qui leur était tombé du ciel, recommandait à la mendiante de prendre toutes les précautions nécessaires. Lorsqu'il assistait à ces recommandations, Pierre était partagé entre deux sentiments qui se combattaient violemment dans son cœur. Tandis que d'une part, il eût été enchanté, heureux au possible, de voir Louise retrouver l'amie qu'elle pleurait, d'autre part, il s'avouait qu'il ne pourrait pas résister au chagrin de ne plus voir sa chère petite aveugle, de ne plus l'entendre lui parler avec douceur, lorsque, par hasard, il se trouvait seul, soit dans la rue, soit dans la masure de la rue de l'Oursine. Et cependant, en voyant à quel désespoir sans fin était condamnée Louise, le brave garçon s'en voulait de son égoïsme. « J'y penserai toujours, soupirait-il, j'y penserai toute la vie, lorsqu'elle nous aura quittés, mais je veux qu'elle parte. » Malheureusement, le sacrifice que Pierre imposait à son cœur avait jusqu'à ce moment été en pure perte. Les jours s'écoulaient sans apporter aucun changement à la situation de Louise, si ce n'est que la malheureuse dépérissait à vue d'œil. Ce qui réjouissait fort l'affrochard, qui ne cachait pas à Jacques que depuis que la petite avait mauvaise mine, les recettes augmentaient. Bien que depuis 3 mois l'aveugle rapportât gros, la pauvre enfant n'était pas mieux nourrie pour cela. « Faut entretenir sa voix !» ricanait la mendiante en lui donnant la mince pitance de chaque jour. À ce régime, le visage de l'infortuné avait bien vite perdu ses charmantes couleurs. Ses traits s'étaient amaigris, et autour de ses yeux rougis par les larmes se dessinait un cercle bistré. C'était pitié de voir cette pauvre créature pencher péniblement la tête comme une fleur qui s'étiole, lorsque, suspendue au bras de la vieille femme qui lui servait de guide, elle se traînait pendant de longues journées. Cette existence se continuait sans cesse plus douloureuse pour celle qui n'avait plus d'espoir. Ce jour-là, pour la 20e fois peut-être, l'affrochard venait avec son gagne-pain exploiter les abords de l'église Saint-Sulpice au sortir de la grand-messe. « Allons !» dit-elle en frappant les hanches de la jeune fille de 2 bourrades, administrées en Sainte-Nitouche. « Plus de voix que ça !» Et Louise, maîtrisant les soubresauts de sa poitrine qui haletait sous les sanglots, avait entamé le second couplet. « Je la revois plus belle tous les jours. Je me plains toujours d'elle, et je l'aime toujours. » À peine la dernière note se fut-elle noyée dans les larmes qui suffoquaient la pauvre fille, que l'affrochard, tirant de sa poche une petite soucoupe d'étain, commençait la quête. De sa voix nasillarde, elle disait avec la sempiternelle grimace des mendiants « Pour une infortunée aveugle, s'il vous plaît !» Et elle allait, des uns aux autres, jugeant sur la figure des gens auprès desquels il fallait insister. La vieille rouée récoltait quelques sous et de rares petites pièces blanches. De l'endroit où il se trouvait, le rémouleur avait assisté le cœur serré à cette scène qui s'était déjà renouvelée si souvent en sa présence et à son grand désespoir.
Il n'avait pas quitté des yeux l'aveugle pendant tout le temps que celle-ci avait chanté. Il souffrait de l'avoir pleuré. Il eût travaillé 100 fois plus, eût-il dû se tuer à la peine pour épargner à la chère créature un jour de ce cruel supplice. « Comme elle a l'air malheureux et désespérée !» murmura-t-il sans que Jacques l'entendît. Au surplus, le chérubin, qui avait battu de quelques pas en retraite, ne s'occupait, lui, que de supputer la valeur des pièces de monnaie qui tombaient dans la soucoupe d'étain. Il paraît qu'il se trouvait peu satisfait de l'évaluation de la recette, car voyant l'air piteux du rémouleur, il décocha cette ironique apostrophe. « Allons bon, voilà le pigeon qui roucoule !» Et avec un gros rire. « Ti Vénus, faut pas t'attendrir !» Louise avait achevé sa chanson. Aussitôt, tous ceux qui avaient fait le cercle pour l'écouter se dispersèrent au moment de la quête obligatoire. La Frochard, furieuse, suivait les uns et les autres, renouvelant pour chacun les mêmes jérémiades. « Ayez pitié d'une pauvre aveugle. Faites la charité, mes bonnes âmes, à une malheureuse privée de la lumière du bon Dieu. » Mais on était probablement habitué à ce boniment, car le plus grand nombre ne répondait pas à son appel. Comme toujours, lorsque la chanson n'avait pas suffisamment rapporté, la mégère faisait une affreuse grimace, et on pouvait lire dans ses yeux la promesse des mauvais traitements qu'elle réservait à sa victime. En effet, revenant auprès de Louise, l'horrible créature la poussa violemment du coude en grommelant. « Y a pas gras, chien de bourgeois, c'est toujours la même chose. Ils sont 20 pour entendre chanter, et il n'en reste pas 4 quand on fait la quête. » Jacques s'était approché et se consolait de la pauvreté de la recette en disant à sa mère. « Ça vaudra mieux à la sortie de l'église. T'as raison, mon chéri. Nous y reviendrons tout à l'heure. » Elle avait saisi la main de Louise et passait de force sous son bras celui de l'aveugle afin de l'entraîner. « Allons, marchons » glapit-elle de sa voix éraillée qui faisait toujours sursauter Louise. Mais cette fois, la pauvre enfant succombait aux fatigues qu'elle avait subies depuis le matin. La Frochard l'avait fait sortir au petit jour, et depuis les deux femmes, l'une traînant l'autre, n'avaient cessé de parcourir les rues. C'est à peine si l'on s'était reposé, pendant quelques rares instants, sur les marches des églises. La Frochard voulait absolument faire recette ce jour-là, pour rapporter une somme exigée par le chérubin. Et lorsque Jacques exigeait, il n'avait pas de fatigue qui tint. On marchait jusqu'à ce qu'on eût réalisé cette somme. Impitoyable pour elle-même, la mégère l'était également pour la malheureuse, qu'elle surmenait sans scrupule et sans pitié. Et comme Louise semblait ne plus pouvoir avancer, la cynique créature lui avait répété durement. « Eh ben quoi donc? Est-ce que je n'ai pas commandé de se mettre en route? Allons, marchons !» Timidement et de sa voix tremblante, l'aveugle avait répondu. « Je suis bien fatiguée, madame. » Pour toute réponse, la Frochard ne trouva, dans son implacable cruauté, que ces mots. « On se reposera ce soir !» Mais Louise était bien réellement à bout de force. Malgré le ton brutal de son bourreau, elle voulut insister pour qu'il lui fût permis de se reposer, ne fût-ce que pendant quelques minutes, sur les marches de pierre qu'elle sentait à ses pieds. « Croyez-moi, madame, » fit-elle, « mes jambes me soutiennent à peine. Nous avons tant marché aujourd'hui. » À sa grande surprise, la Frochard ne s'emporta pas comme elle le redoutait. Elle se mit à ricaner avec des intonations de crécelle et riposta. « Eh ben, c'est ce que vous demandez, de marcher, pour tâcher de rencontrer votre sœur. » Lorsque la mendiante voulait obtenir quelque chose de sa victime, elle avait soin de faire vibrer cette corde-là. « Va, » dit-elle à Jacques, « je sais joliment bien lui jouer de son henriette à cette petite mijaurée. » « Il ne faut qu'un moment, » répétait-elle sans cesse à sa victime, « il ne faut qu'un moment pour que vous tombiez nez à nez avec votre sœur. Et c'est encore moi qui y perdrai, car je vous aurai logé, hébergé et promené gratis. » L'aveugle avait encore alors la naïveté de croire à la sincérité de ses paroles, et elle promettait avec effusion que sa sœur saurait se montrer reconnaissante. Reconnaissante. Elle parlait de reconnaissance. Elle, cette malheureuse, pour laquelle on avait raffiné toutes les tortures. Reconnaissante, de 3 mois de traitements odieux, de criminelles exigences, de violences inouïes. Et la pauvre éprouvée, en parlant ainsi, était sincère. Elle eut assurément, dans sa joie de retrouver Henriette, oublié toutes les souffrances, toutes les tortures, toutes les infamies qu'elle avait subies. Elle eut caché à sa sœur retrouvée tout ce qu'il y avait eu d'abject. d'ignoble, de monstrueux dans la conduite de la Frochard à son égard. Elle eut tout oublié dans cette minute de bonheur pour s'écrier « Oh, ma sœur, sois généreuse pour ceux qui ont recueilli l'abandonné. Sois bonne pour ceux auprès de qui j'ai trouvé l'hospitalité. C'est à toi de faire honneur à la parole qu'a donnée l'aveugle qui te pleurait et que tu retrouves grâce à ceux qui l'ont secouru. » En entendant, pour l'engager à obéir, la mendiante invoquer le nom d'Henriette, l'aveugle ne put cette fois cependant se défendre d'un mouvement de révolte. « Oui, dit-elle, je sais bien que c'est en marchant que je pourrais rencontrer ma sœur. Mais vous savez bien, vous, madame, que nous restons toujours dans le même quartier. »« Bah, c'est des idées que vous vous faites, » répliqua la Frochard. Puis vivement, « Comment que vous pourriez le savoir, puisque vous n'y voyez goutte ?»«
Je le sais, madame, » répondit Louise. « Et vous m'aviez promis en me recueillant... »«
Quoi ? » s'écria la mégère avec aigreur. « Je vous ai promis de vous aider dans vos recherches. C'est la vérité. » Et se mettant les deux poings sur les hanches. « Mais je n'avais ni rente, ni ferme en Beauce, moi. C'est pour ça qu'en cherchant, je veux que vous chantiez. Vous gagnez le pain que vous mangez. »
Ces mots avaient pénétré profondément dans le cœur de Louise. Elle ne put contenir sa douleur. On osait lui adresser un reproche, à elle, la victime, à elle, la martyre. Les larmes jaillirent de ses yeux. Et elle murmura. « Eh bien, je chante, madame. »
La Frochard eut une exclamation féroce.
« Oui ? » s'écria-t-elle. « Vous chantez ? Vous chantez comme un deux profondis !»
Traitée avec cette brutalité révoltante, Louise continuait à sangloter. Le rémouleur aurait bien voulu pouvoir, en ce moment, se glisser auprès d'elle pour lui adresser tout bas quelques-unes de ces paroles de consolation que ce souffre-douleur savait trouver dans son cœur pour s'être affligé. Mais la Frochard continuait à serrer l'aveugle par le bras en mâchonnant des mots violents contre la pauvre fille qui n'en pouvait plus et qui suffoquait.
« Je vous assure, madame, disait Louise au milieu de ses larmes, que je chante aussi gaiement que je le puis, mais ça ne dépend pas de moi, voyez-vous. »
Elle se tordait les mains de désespoir, la malheureuse, et abîmée sous l'immensité de sa douleur, elle continuait.
« Quand je pense à ce que je suis, à ce que je fais, je... »
Les sanglots l'étouffaient de nouveau. Elle avait vivement porté les mains à sa gorge, comme si son âme allait enfin s'envoler de ce misérable corps tant éprouvé, si cruellement surmené. Elle trouva un accent déchirant pour s'écrier « Oh, je suis si malheureuse, si malheureuse !»
Pierre, arrivé au comble de l'angoisse, voulut s'élancer au secours de sa chère protégée. Il s'oublia jusqu'à tendre les deux bras comme pour soutenir la jeune fille défaillante.
« Louise, fit-il avec une touchante expression qui résumait tout ce qu'il y avait en lui, d'effroi et de pitié. Mais il trouva devant lui Jacques, les bras en avant, pour le repousser. Jacques, qui n'attendait qu'une occasion semblable pour faire sentir le poids de son poing à cet être chétif. Jacques, qui lui dit de ce ton des faubouriens avinés.
« Eh bien, de quoi ?»
Puis, ayant repoussé du coude le rémouleur qui se contentait de répondre.
« Ça me fait mal de l'avoir pleuré. »
Le chérubin s'approcha de l'aveugle. Et plongeant son regard impur et vicieux sur ce visage éploré d'une sainte, il ricana à mi-voix.
« Tiens, elle est gentille quand elle pleure !»
Mais la Frochard était bien décidément exaspérée par la mince recette, car elle ne fit même pas attention à ce que venait de dire son fils préféré, dont elle admirait d'habitude les idiotes plaisanteries. Elle avait accroché de ses doigts nerveux et crispés le bras de l'aveugle, qui désormais ne ferait plus de résistance. Et l'entraînant, elle lui envoyait ces mots qui devaient clôturer sèchement la conversation.
« Assez de raisonnement comme cela. Allons, en route !»
Louise se mit à trembler de tous ses membres. Ne savait-elle pas, hélas, ce qu'il y avait de sourde colère dans ce ton de la mendiante? Comme l'enfant qu'on brutalise et qui ne peut se défendre, elle se laissa traîner. Et sa voix chevrota quelques paroles entrecoupées qui témoignaient de son découragement et de sa terreur.
« Oui, madame, oui. »
Et pour se montrer encore plus obéissante, la malheureuse renfonçait ses larmes et passait le revers de sa main sur ses paupières humides. D'un geste, la mendiante la força de laisser retomber ses mains. Cyniquement, elle grommela.
« N'essuyez donc pas vos yeux. C'est très bon, des vraies larmes. Ça attendrit le cœur des passants. »
À peine avait-elle achevé sa phrase, qu'en effet, un passant s'approcha de l'aveugle et lui glissa une pièce de monnaie dans la main. La Frochard eut une exclamation de triomphe. « Qu'est-ce que je disais ?» et s'adressant à Jacques, qui riait sous cap. « En v'là un qui a donné dedans !» Alléchée par cette aubaine, la mendiante voulut mettre à profit les vraies larmes, comme elle l'avait dit cyniquement. Elle entraîna Louise tout autour de la place en marmottant. « Pour une pauvre aveugle, s'il vous plaît !» Arrivée au bout de la place, les deux femmes s'engagèrent dans la rue de Condé. Les cloches carillonnaient. Un grand nombre de fidèles, débouchant de la rue Saint-Sulpice, pénétraient dans l'église, passant au milieu d'une double haie de mendiants agenouillés et grelottants sur les marches et jusque sous le portique. C'est le moment qu'attendait Jacques lorsqu'il prédisait à sa mère que la grand-messe serait plus avantageuse.